Et donc, il y a un sous-thème que nous ne pouvons pas ne pas voir. Hein? Et celui-là, c'est Mammon et amour d'argent. Mammon et amour de l'argent. On ne peut pas ne pas traiter ça dans le contexte qui est le nôtre. Le mot mammon semble avoir été employé par Jésus et apparemment que par lui. Nous pouvons lire dans Matthieu le chapitre 6, verset 24. J'imagine que tout le monde connaît, j'ai failli ne pas le faire lire, mais, mais lisons-le. Hein? Matthieu le chapitre 6, verset 24. Quelqu'un peut lire? Oui, allez-y. Voilà. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est un mot qui vient du mot grec. D'un mot grec, j'ai pas besoin d'essayer de le prononcer ici de peur d'attirer sur moi ceux qui s'y connaissent, la colère de ceux qui s'y connaissent. Et donc, je saute le pas dessus. Mais c'est un mot qui vient du mot grec. Mais en réalité, c'est un mot araméen, d'origine araméenne, qui signifie richesse. Et en fait, ce mot est personnifié pour désigner la divinité que représente l'argent. Donc l'argent est personnifié sous le nom de Mammon, Dieu comme Dieu. Comme pour dire que l'argent, c'est Dieu. Comme les idoles, comme toutes les idoles. L'argent érigé donc en idole, en lequel se confie quelqu'un. Donc, pour tous ceux qui se confient en l'argent, pour leur sécurité, et peut-être pas seulement que leur sécurité sur cette terre, il y en a qui vont au-delà. Et dernièrement, j'ai regardé, juste avant de venir ici, une émission télé sur l'ancienne Égypte. Et on venait de faire des découvertes. Et l'une des découvertes porte donc sur une momie qui, visiblement, était la momie d'une personne très riche. Et ce par quoi on a reconnu ça, c'est à cause de la masse d'or qui l'accompagnait dans sa tombe. Et l'explication était qu'il lui en fallait suffisamment pour pouvoir se payer l'entrée. L'entrée chez donc le plus grand des dieux de leur époque. Et donc, il y en a qui vont se confier à l'argent, même pour le dollar, alors qu'ils savent qu'ils peuvent ne même pas prendre ça avec eux. Il va falloir qu'on mette ça à côté d'eux. Ce n'est pas eux-mêmes qui le mettent. Ça veut dire qu'il faut encore que les gens vous mettent ça avec vous. Ils représentent donc des faux dieux du matérialisme. Et ce que Jésus veut dire en Matthieu 6, 24, c'est très clair que ce n'est pas du tout possible. Et absolument du tout pas. De servir Mammon, c'est-à-dire d'être son esclave, de se soumettre à lui et de pouvoir aussi servir Dieu. C'est deux choses antinomiques. C'est comme le feu et l'eau. Vous ne pouvez pas mettre les deux ensemble. Impossible. En d'autres termes, pour toute personne qui se confie à l'argent, qui dépend de l'argent pour sa vie, pour son avenir, celui qui soumet donc sa vie à l'argent de cette manière-là, il ne peut pas non plus soumettre sa vie à Dieu. Ce n'est pas possible. C'est ce que Jésus est en train de dire ici. Il veut donc nous dire que quand l'argent devient Dieu, alors nous ne pouvons pas aussi, dans le même temps, appartenir à Dieu, le vrai Dieu. Que ce n'est pas possible. N'est-ce pas que Arnaud Boudard, c'est un architecte et développeur français, n'est-ce pas qu'il donne raison à Jésus quand il déclare, je le cite, « Autrefois, nous nous inspirions de la toute-puissance de Dieu. Maintenant, nous nous inspirons de la toute-puissance de l'argent. » Ne donne-t-il pas à Jésus raison? C'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est permettre à des choses matérielles de devenir le point de mire des désirs et des valeurs d'une personne. Je définis ma vie. Je définis ce qui importe dans la vie. Je définis ce qui compte dans la vie. Toutes ces choses, je les définis par rapport à une autre chose qui peut être de l'argent, et à ce moment-là, c'est de l'idolâtrie. Et nous avons coutume dans notre jargon de Canaan de dire que c'est donner la première place de son cœur à toute autre chose que Dieu. À ce moment, ce à quoi on donne la priorité, c'est donc une idole. Et nous sommes idolâtres. Et donc, Mammon est une idolâtrie, et quiconque se confie à Mammon, au dieu de l'argent, cette personne est une idolâtre. Le disciple de Jésus n'est certes pas appelé à rejeter systématiquement le monde matériel, mais il doit soigneusement éviter de tomber dans le piège séduisant et trompeur du matérialisme. Mammon est le système de notre planète, influencé par le prince de ce monde, dont la philosophie est entièrement contraire à celle de Jésus, qui proclame que la destinée de l'homme est d'amasser des trésors sur la terre, de chercher en eux sa sécurité et de s'y attacher de tout son cœur. Là où est ton cœur, là sera ton trésor. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et l'apôtre Jean conseille précisément, je le cite, « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Il n'y a pas de place pour l'amour du Père, pour aimer Dieu. Mais il y a une autre manière de comprendre aussi. C'est parce qu'il n'y a pas l'amour de Dieu en toi que tu aimes, tu as pris ce Dieu-là pour le mettre à la place où Dieu devait y être ou devait être l'amour de Dieu. C'est une autre manière de comprendre aussi. L'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Je disais hier justement que tout ce qui une certaine tendance évangélique proclame maintenant comme étant une doctrine de la prospérité, ce qu'il propose comme étant une bénédiction, en réalité, ce n'est rien d'autre que de la convoitise qu'il propose. Et le fait est que l'homme étant aussi égoïste et avare comme nous pouvons le voir, ces choses-là nous emballent facilement. Et nous pouvons nous laisser aller avec. Jamais, constate amer Sophocle, le dramaturge grec que beaucoup connaissent ici, jamais n'a grandi chez l'homme un mal pire que l'argent. Attention, remarquez bien, les amis, Jésus n'a jamais enseigné aux hommes, aux foules qui le suivaient, de choisir entre Dieu et Satan. Lisez toute la Bible, vous vous en rendrez compte. Il n'a jamais dit ça. Il présente la vie, il présente Dieu, il dénonce Satan. Mais à la fin, il n'a jamais demandé « Choisissez entre Dieu et Satan. » Mais quant à ce qui concerne Mammon, il dit « Choisissez. » Simplement parce que la question de cette idolâtrie, la question d'argent, la question des richesses du monde constitue une tentation tellement subtile que Jésus est obligé d'appeler l'attention du monde pour dire, écoutez, il vous faut d'abord en prendre conscience. Et une fois que vous avez pris conscience, il vous faut encore suffisamment de courage et de discernement pour enfin choisir. C'est cette difficulté que le Seigneur est en train de pointer du doigt. C'est tellement sérieux. C'est tellement pernicieux. C'est tellement séditieux. Que si vous vous y méprenez, vous risquez d'aller ailleurs. Il vous faut du discernement, de la prise de conscience et du courage, pour pouvoir dire, je ne vais pas courir derrière l'argent. Ma perspective ne sera pas d'amasser de l'argent, d'amasser des richesses, avoir des villas sur villas, avoir des voitures sur voitures. Oh, mais mon Dieu, j'ai appris dernièrement, par le truchement donc des médias, l'importance du parc automobile des grands joueurs de football. J'ai dit, mais Seigneur, même s'il doit conduire une voiture chaque jour, pour une voiture, il ne l'utilisera pas plus de 4 ou 5 fois dans l'année. Et des millions et des millions dépensés pour cette voiture. Je dis, il a perdu la tête. Même si tu veux te montrer le plus riche, en quoi cela va t'aider? On sait déjà. Il va faire quoi? Jésus, en appelant au choix de l'homme, c'est parce que le mal est si insidieux, pernicieux et perfide qu'il faut davantage de discernement pour en prendre connaissance. Mais encore, une fois la prise de conscience établie, il faut une superbe dose de volonté et de courage pour faire le choix de ne pas céder à la séduction de l'argent et des biens matériels, au demeurant si forte et attractive pour l'homme que nous sommes. L'amour de l'argent, quant à lui, peut exercer un pouvoir dévastateur dans la vie d'un chrétien. Pour nous en convaincre, lisons attentivement la parole de Dieu sous la plume de l'apôtre Paul quand il écrit « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » Eh bien, mais je me trompais souvent alors. Mais quand je disais de tête, je disais « est une racine de... l'amour de l'argent est une racine de la plupart des maux. » Alors que c'est tous les maux, hein. Moi, dans ma citation, je mets quelques mots à côté. Mais il me dit non. Il ne faut pas mettre quelques mots à côté. C'est tous. De tous les mots. Et quelques-uns, en étant possédés, donc possédés par l'amour de l'argent, se sont égarés loin de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments, dans bien de tracasseries, dans tant de problèmes à cause de l'amour de l'argent. Et puis, l'une des caractéristiques de cet esclavagisme de mammon est de nous faire courir sans cesse derrière des fortunes de plus en plus grandes. Alors, Jean-Jacques Rousseau nous dit, il n'est plus à présenter hein, pour des intellos francophones que vous êtes. Hein. Il dit, l'argent qu'on possède est l'instrument de la liberté. Celui qu'on pourchasse est celui de la servitude. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Mais malheureusement, le fait est que l'amour de l'argent, quand il nous a pris, nous fait courir. Et donc, pour Jean-Jacques Rousseau, celui qui est saisi, hein, celui qui est démonisé par cet amour-là, amour de l'argent, tous les jours ne fait que courir vers sa perte. Il ne fait que courir vers son esclavagisme. Comme pour dire, maître, où es-tu? Me voici constitué esclave. Moi-même, je me suis déjà enchaîné. Je suis là, viens me prendre. Quand chaque jour, il ne fait que courir, chercher à amasser de l'argent. Le Dieu appelé argent est puissant, violent et rusé. Beaucoup de personnes sont prêtes à faire n'importe quoi pour en obtenir. Vous ne trouvez pas bizarre cette histoire-là? Vous voyez toute la description qu'on fait, mais il s'en trouve qu'ils veulent aller à ça. Ah, le péché, quand il nous tient. Elles sont prêtes à voler, mentir, tricher, haïr, trahir, détruire et même tuer pour accumuler de l'argent. Mais le dramaturge anglais Henry Fielding avertit: faites de l'argent votre Dieu et il vous damnera comme le diable. Jésus, qui est le premier à qualifier ainsi sévèrement l'argent en le qualifiant de Dieu, en l'appelant Mammon, c'est-à-dire une idole, a tôt et vite fait de nous avertir et de nous mettre en garde contre cet esclavagisme. C'est ainsi qu'en raison de notre égoïsme, l'argent est dangereux. C'est un piège malhonnête et trompeur, comme dit le Christ. La Bible ne dénonce pas seulement le vol ou la corruption, mais aussi la cupidité, l'avarisme, qui sont en fait l'amour de l'argent. Les gens demandent souvent, l'amour de l'argent, c'est quoi? C'est la cupidité. C'est l'avarisme. C'est ça, l'amour de l'argent. On en veut, on en veut, on en veut. Et comme quelqu'un l'a dit, peut-être qu'on va le voir tout à l'heure, plus on en a, plus on en a besoin. Plus on en a, plus on en cherche. Ce n'est donc pas l'argent qui est visé comme tel en réalité. Mais le problème ici, comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, c'est notre rapport à l'argent. Notre rapport à l'argent. C'est ça qui est le problème qui est en train d'être dénoncé dans 1 Pierre le chapitre 6, le verset 8 à 10, comme nous l'avons lu. L'amour de l'argent, c'est-à-dire la cupidité, engendre l'exploitation d'autrui, le vol et la corruption. Il entraîne la perdition de celui dont le cœur en est rempli. Dans la Bible, la cupidité et donc l'amour de l'argent est un péché grave, car à cause de l'argent, on peut faire n'importe quoi de malhonnête, de déshonnête, ou même d'amoral pour pouvoir en posséder. Chers amis, à ce stade, posons-nous la question de savoir quelles sont nos ambitions? Quelles sont vos ambitions dans cette vie que Dieu nous a départie? Quelles sont les ambitions? Quelles sont vos ambitions de la vie? Sont-elles inspirées par une autre cause? Sont-elles inspirées par l'appât du gain? Par le besoin d'amasser de l'argent? Quelles sont vos ambitions? En tant qu'étudiant, vous avez des perspectives. Il y en a qui, certainement, ont aussi un projet de vie, déjà. Et normalement, je me dis qu'au niveau de l'université, peut-être qu'au plus tard, à la fin de la deuxième année, quelle que soit la filière, un étudiant digne de ce nom devrait avoir un projet de vie. Qu'est-ce qui a inspiré votre projet de vie? L'amour de l'argent nous conduit aujourd'hui ou demain, tôt ou tard, à l'argent obtenu par des moyens rapides, hasardeux, parfois immoraux, qui ne jouissent pas de la bénédiction de Dieu. La richesse s'acquiert par un travail honnête, demande de la sagesse et toujours du temps. Et Proverbe 13, 11 nous dit, la richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu augmente. Car oui, comme le dit Ralph Emerson, c'est un philosophe américain du début du 19e siècle, l'argent coûte souvent trop cher. Si tu n'as pas encore pris la ferme décision de servir Dieu avant l'argent, inévitablement, tu pourrais être amené à rechercher l'argent avant de servir Dieu. Et insensiblement, tu tomberas dans l'amour de l'argent, dans l'esclavagisme de Mammon. Et alors, l'amour de l'argent prendra la place de Dieu dans votre cœur. Voyez Luc le chapitre 16, verset 13 et Matthieu chapitre 6, verset 21. L'amour de l'argent te disqualifie du ministère, exactement comme ce fut le cas des pharisiens, dont l'amour de l'argent a rempli leur cœur, de sorte que toute leur perspective de la vie religieuse tourne autour de la richesse. Parce que pour eux, les richesses sont un signe de l'approbation de Dieu. C'est ce que les pharisiens croyaient. Et c'est pourquoi ils sont généralement à contre-faux avec le Seigneur. C'est aussi à cause de cela. Et lorsque Jésus parlait de l'argent au temple, quand il a dit, il est dit que ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une cabane de voleurs. Ils étaient en train de rire de lui. Ils se moquaient de lui. Parce qu'ils disent, il est tout simplement aigri parce qu'il n'en a pas. Et quand on n'en a pas, on parle facilement mal de l'autre. C'est ce qu'il est en train de faire, lui et ses disciples. Rien moins que ça. Parce que pour eux, la richesse est un signe d'approbation. C'est trop facile de parler contre les riches, quand on est dans la position de Jésus et de ses suiveurs. Prenez ces textes. Matthieu, le chapitre 21, le verset 12 et 13. Matthieu, chapitre 21, verset 12 et 13. Marc, le chapitre 11. Les versets 15 à 19. Marc, le chapitre 11, versets 15 à 19. Luc, le chapitre 19, les versets 45 à 48. Luc, le chapitre 19, versets 45 à 48. Jean, le chapitre 2, versets 13 à 17. Et en bon jébéussien, je vous conseille tous les autres passages parallèles qui vont avec ça. Lisez tous ces passages attentivement. J'ai été surpris de me rendre compte d'une chose. c'est que toutes ces références, si vous ne prêtez pas attention, vous ne verrez tout simplement que le fait que Jésus a fouetté les gens dans le temple, le fait qu'il a renversé leur étable, le fait qu'il a renversé les dispositifs de change, etc. Mais en bon jebusien, quand vous cherchez le contexte, vous allez voir qu'il y a deux catégories de références. Une première catégorie qui, en fait, concerne le début du ministère de Jésus. Et une autre catégorie qui se situe plutôt vers la fin du ministère de Jésus. Dans les deux cas, ce que Jésus est en train de faire et qu'il proclame lui-même, c'est la purification du temple, de la maison de Dieu. Au début du ministère de Jésus, il fait la purification du temple de son Père, en particulier des tenants et des aboutissants du Dieu Mammon. Vers la fin de son ministère, il fera encore la même chose, purifier et sanctifier la maison de son Père, des tenants et des aboutissants du Dieu Mammon. Il commence, disons-le comme ça, son ministère par là, et il finit son ministère par là. La sanctification et la purification des idoles du Dieu Mammon dans la maison de son Père. L'amour de l'argent peut nous induire à tort, à tordre le sens des Écritures. Quand nous avons l'amour de l'argent, et comme nous avons la prétention d'être chrétiens, comme nous avons la prétention d'être pasteur, d'être bishop, cela va nous amener à tordre le cou aux Écritures et leur donner des interprétations qui nous vont bien avec ce que nous voulons faire. Et on pourra prendre Luc chapitre 6, versets 35 à 38, pour dire, par exemple, mais voyez, Dieu dit ici, donnez et il vous sera donné. Donnez-moi et il vous sera donné. Ils vont vous dire, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Regarde, tu vois, tu dois prospérer à tous égards. Comment tu penses que tu me dis que tu prospères seulement spirituellement? Et tu dors dans une hutte. Et tu marches pour aller au travail. Et tu es vêtu comme étant un dingolo comme ça de la rue. Où est-ce que tu as mis ça? Et pourtant, la simple compréhension du texte voudrait dire que si on devait le rendre en un français d'aujourd'hui, on dirait tout simplement, bien-aimé, je te souhaite une bonne journée et que ta santé physique soit aussi bonne que ta santé spirituelle. C'est tout. Mais on va lui tordre le cou pour lui dire ce qu'en fait, c'est même pas dans sa tête. Ils vont te dire, mais Jésus a dit qu'il est venu pour que ses brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Comment toi tu peux être dans le désabondance? À moins que tu ne sois pas sa brebis, où il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Hein? Je peux tout par Christ qui me glorifie. Tu as mis ce verset là où? Comment tu es tout le temps en train de miauler? Alors qu'il est dit que tu peux tout par celui qui te fortifie. Il importe, les amis, de se poser un certain nombre de questions incisives ci-dessous. Est-ce que je suis encore dans le temps?
Le repas est à midi. Le reste, c'est toi qui gères.
Oui, oui. Ben, mais je risque de... Oui, mais je vais gérer et puis je vais vous gérer aussi, hein? Mais alors, suivez-moi tout simplement. Hein? Ne miaulez pas. Comment je me comporte avec l'argent? Posons-nous chacun cette question. Suis-je prêt à tromper ou à exploiter autrui pour gagner de l'argent? Ma gestion est-elle transparente? Ai-je vraiment dit non à la corruption et à la malversation? Ai-je le souci de m'acquitter de mes dettes? Ai-je le souci de restituer à son propriétaire ce qui est égaré ou oublié, au lieu de dire « ramasser n'est pas voler ». On peut comprendre pourquoi Paul recommande avec tant d'assistance que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Et lui-même témoigne, je vais dire de Paul, je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans l'abondance, partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. La présence du besoin dans nos vies ne signifie pas l'absence de Dieu, ne signifie pas la désapprobation de Dieu. Nous nous accordons avec Joseph-Michel Antoine, c'est un magistrat et juriste français du XVIIIe siècle, qui dit ceci, qu'il est plus difficile de supporter la richesse sans se corrompre que la pauvreté sans s'avilir. C'est difficile. Et que l'argent gagné malhonnêtement finit toujours par se venger. Et ça, c'est Rock Carrière, oui, poète et dramaturge canadien du XXe siècle, à tout Canadien, tout honneur, n'est-ce pas? On peut aussi comprendre qu'avec la sagesse de Dieu, dont il est si abondamment revêtu, Salomon a pu déclarer « Éloigne de moi la fausseté et le mensonge, et ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. » Car la Bible dit très bien, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et un sage chinois dit avec beaucoup de réalisme, « Cours après l'argent et la sécurité, et ton cœur ne s'apaisera jamais. » Et c'est avec le même réalisme que l'Algérien Mazouz Hassen, c'est un médecin de son état, observe que l'argent est un stress permanent. On a peur d'en manquer, et quand on en a assez, on craint de tout perdre. On parlera tout à l'heure de l'échec de la richesse et de la pauvreté de la richesse. Mais déjà, vous en avez un goût ici. C'est l'échec de la richesse. Tu l'as, mais tu ne seras jamais en paix. Un mot sur la dette, parce que c'est un chapitre qui mérite quand même d'être développé, tant elle est une question d'actualité. Mais nous ne pouvons pas vraiment développer cela, mais juste un mot. Avec toute la prudence qu'on voudrait se revêtir pour parler de cette question aussi épineuse que délicate, il faut pouvoir le dire ouvertement que c'est l'un des piliers tyranniques par lequel le dieu Mammon accroche de nos jours encore nombre de ses proies par le canal de la dette. En fait, c'est l'essence même du système économique moderne et postmoderne. Il faut s'endetter. Il faut amener les gens à s'endetter. Alors, empruntons, permettez-moi de le dire ainsi, tout bêtement, cette compréhension de Mustafa Kemal, militaire et homme d'État turc, qui postule le meilleur moyen de perdre son indépendance, c'est de dépenser l'argent qu'on ne possède pas. C'est pour éviter de nous engouffrer dans des dédales labyrinthiques, des théories financières et économiques, tout aussi loufoques qu'élitistes les uns des autres, que nous citons ici Salomon, qui, étant averti des méfaits de la dette, dit « Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte l'esclave, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Dans la première partie de ce verset, Salomon avance que l'argent est un outil de domination. Et il est évident que cette affirmation correspond à une observation et non un encouragement. Il ne fait qu'observer. Il voit ce qui se fait. Et dans la deuxième partie, il met en évidence, il met en garde contre l'emprunt, sans pour autant l'interdire, bien sûr. Mais il met garde. Il met en garde ceux qui l'écoutaient. En effet, un chrétien doit éviter de s'endetter, surtout avec de mauvaises dettes, comme par exemple les prêts à la consommation, conseille Samuel Atzakorzian, évangéliste et prédicateur français d'origine américaine. En parlant de mauvaises dettes, Surprime, vous dites quelque chose? Ben, sinon, vous n'êtes pas cultivé, hein? Et surtout, peut-être que vous n'êtes pas près des États-Unis non plus. De la sagesse de Salomon à la prescription prudente de Paul aux Romains ne devint rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Il y a juste une marche de simplicité et de bon sens à faire pour concilier les deux. En imitant d'ailleurs la démarche herméneutique de Jésus qui remit les pharisiens à leur place en leur disant tout simplement « C'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. » Au commencement, il n'en était pas ainsi. Pour la bonne conduite, Dieu a donné ce gage à son peuple. Deutéronome 15, le verset 6. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il l'a dit. Tu prêteras beaucoup à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'empreinte. Tu domineras beaucoup de nations et elles ne te domineront pas. Parole de l'Éternel. Que le Seigneur nous bénisse.